Radar.
Actu culturel.
Plus qu'une émission, une transmission. Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve pour cette quatrième émission de Radar, votre émission culturelle, toujours en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour Lucas. Comment vas-tu, Lucas ?
Bien, écoute, ça va bien, Lucas. Et toi ?
Ben écoute, moi ça va. Ça va très très bien. Je vais très bien.
Quoi de neuf ?
Ben, quoi de neuf ? Eh bien, d'abord, je remarquerai que tu as retrouvé ta voix, puisque
effectivement,
c'est ce qui a un peu...
Tu vois, je ne suis plus malade.
Ouais, c'est ce qui a empêché Radar de se produire avant.
C'est vrai.
Avant,
on s'excuse pour,
on s'excuse
pour
un peu
le délai.
Ouais,
hein.
Le délai.
Bien évidemment. Hein. Mmh. Et encore, ça a failli ne pas passer, puisque j'ai fait une intoxication hier, et ça a failli partir en drame.
Oui, c'est vrai, mais... Tout ça pour dire que, eh bien, finalement, il faut manger des chipirons, mais fait maison.
Exactement.
Voilà.
Ouais, de ouf. Et bien, écoute, de quoi nous allons parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment feel good, qui s'insère vraiment dans les valeurs de Radio Campus Pau. Et tout simplement, nous allons parler aujourd'hui du crime.
Du crime. Et qu'as-tu à nous dire sur le crime ? Comment tu l'intégrerais finalement ? Comment tu introduirais ce sujet-là ?
Eh bien d'abord par un aspect qui me paraît essentiel, puisqu'on est d'accord quand même que le crime ça intéresse très souvent les gens qui aiment, je pense plutôt, tu sais, le droit, les trucs comme ça.
Mm-hmm.
Eh bien laisse-moi te dire que, eh bien en France, il est illégal de tuer quelqu'un. C'est interdit par la loi.
Ah ouais ?
Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et bien maintenant, tu le sais. Donc, quand tu dis que tu veux tuer quelqu'un comme ça, tu sais, quand tu es énervé, « Ah, je vais le tuer !» Eh bien...
Pour le feel good, quoi.
Eh bien, sache que ça ne se fait pas et que tu peux avoir de très sérieux problèmes. Voilà. Ouais.
C'est nous ne sommes pas aux États-Unis.
Non, non, on n'est pas aux États-Unis. Mais Dieu nous préserve d'être américains.
C'est vrai. Et il y a un aspect qui est assez important, c'est souvent dans tout ce qui s'apparente au crime, c'est la notion de crime parfait.
Ouais, c'est vrai.
Et ça te dit quelque chose ? Comment tu le vois, toi, le crime parfait ?
Alors, je ne sais pas si je devrais me prononcer vraiment, si je devrais prononcer le fond de mes pensées.
D'accord, oui, je pense aussi, parce que sinon...
Mais... Je pense que le crime parfait, c'est celui qui a un peu un lien avec le secret dans la mesure où on ne sait pas qu'il a eu lieu.
C'est ça.
Et ça, c'est très intéressant.
C'est vrai que c'est intéressant. C'est... Et justement, j'ai, on va dire, un gars qui parle justement du crime parfait. Et je peux finalement un petit peu introduire le crime parfait, si ça t'intéresse et si nos auditeurs sont prêts. Selon les auteurs de romans policiers, je sais que t'adores les romans, toi, Lucas, il semblerait bien que le crime parfait existe réellement, mais selon les autorités, les policiers, ils affirment que non. Tout simplement parce que, finalement, si le crime parfait a été une fois réellement commis, alors personne ne pourra le savoir. Car sans corps ni suspect, alors il n'y a pas suspicion de crime, j'ai envie de te dire.
Oui, effectivement.
Tu es d'accord sur cette idée-là ?
C'est le secret, c'est important.
C'est le secret, c'est ça. Et justement, l'écrivain Thomas Narcéjac, vainqueur du Grand Prix du roman d'aventure et qui a réalisé l'essai esthétique du roman policier, donne comme définition du crime parfait, je cite, « Le triomphe de la préméditation, le criminel doit non seulement camoufler son crime s'il le peut, mais même prévoir toutes les circonstances qui entourent ce crime de manière à ne laisser aucune trace, de façon à ce que son crime se déroule, en quelque sorte, automatiquement. Donc pour lui, ce sont les auteurs de romans qui ont été amenés finalement à inventer la notion même de crime parfait pour stimuler leur inventivité. Il nous dit, plus le crime est complexe, plus les auteurs peuvent faire preuve de virtuosité.
Ouais, mais moi je trouve que c'est très intéressant.
Tort.
Oui, mais c'est très intéressant parce que je reviendrai peut-être vers la fin de l'émission pour évoquer quelques petits trucs parce que je sais que toi aussi tu as des éléments à ce sujet.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que le crime parfait, forcément, c'est un truc qui était assez souvent utilisé aussi dans l'histoire aussi, parce qu'il faut quand même dire que dans les cas d'espionnage, par exemple, ça a souvent intéressé des États, des organisations, des trucs comme ça, et que, je pourrais te parler de OSS 117.
Ah ouais?
De Jean Bruce. Tu es au courant qu'à la base, c'est une série de romans.
Ah!
Eh oui, c'est une
série. Tu m'intéresses là.
Eh bien, oui, c'est une série de romans, OSS 117, à la base. Jean Bruce, qui est le créateur de Hubert Bonisseur de La Batte.
De La Batte.
Eh bien, tout simplement, c'était un romancier français du XXe siècle qui a écrit les histoires telles qu'on les connaît aujourd'hui, hein, qui ont été retranscrites en film, par exemple Le Carnet d'espion, Rio ne répond plus. Bon, finalement, c'est pas des romans extraordinaires, hein, c'est de la daube. Hein,
oui, bon, après, voilà.
À défaut d'être de la blanquette, mais c'est une très mauvaise blague. Aussi, aussi mauvaise, justement, que OSS 117, les livres et le troisième film. Mais ça, c'est autre chose.
Mm-hmm.
Voilà. Mais c'est comme ça.
Et j'ai remarqué que tu avais omis de parler de OSS 117, Alerte en Afrique Noire.
Ouais, justement. Ouais, mais celui-ci, il est mauvais, donc je le compte pas.
Oui, très bien. Bon, on va pas s'entendre, mais c'est pas grave.
Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave.
Et donc, pour en venir au OSS 117...
Il y a de la tension dans l'air sur ce radar.
Il y a de la tension
dans l'air. On sent que c'est dans la thématique.
On sent que le crime va apparaître...
Il va y avoir un crime.
Il va y avoir un crime. C'est l'heure du crime.
Colonel Moutarde dans la piscine avec la corde, hein, tout simplement. C'est
ouais, inconnu. Tout
avec,
pareil.
Avec le dos. Bon... Eh bien, est-ce que tu as des films
Oui, justement, en fait, je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher un film un petit peu coup de cœur, un film que j'avais adoré et qui pourrait être dans la thématique du crime parfait, j'ai envie de te dire. Et ce film, c'est La Faille, avec Ryan Gosling et Anthony Hopkins. Donc finalement, de quoi il parle ce film ? Donc c'est un homme, Ted Crawford, donc joué par Anthony Hopkins, qui découvre que son épouse le trompe. Il décide alors de la tuer, tout simplement. Voilà, rien de bien particulier. Il décide donc de mettre au point le crime parfait. La police arrive sur les lieux du crime et l'inspecteur en charge de l'affaire découvre deux choses. Il découvre que, premièrement, la victime n'est pas morte, et deuxièmement, c'est la femme avec laquelle il a une liaison. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon cette histoire. Encore une fois, Anthony Hopkins, il joue un psychopathe, hein, comme il sait bien le faire, hein, avec Hannibal Lecter. Je suppose que tu connais le Silence des agneaux.
Oui, évidemment.
Voilà. Et donc il est toujours aussi excellent. Et donc, voyant son amour propre voler en éclats, donc ce fameux Ted Crawford, il lance alors une petite partie d'échecs avec la police en avouant la tentative d'homicide. Nous, on se rend compte qu'on se fait tromper, tu vois. Comme lui, on va pleurer toutes les larmes de notre corps, mais lui, non. Non, non, lui, il a envie de s'amuser, tu vois. Et j'ai envie de te dire que c'est ça qui fait aussi l'originalité du film. Donc, il tue sa femme, il commence par tuer sa femme, mais en plus, il va essayer de faire inculper l'amant de sa femme, tu vois. Donc, il avoue l'homicide, mais par faute de preuves, eh bien, on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas dire, c'est lui, tu vois.
Ouais.
Et donc, il va essayer de faire accuser, dans un deuxième temps, l'amant de sa femme, comme ça, d'une pierre deux coups, hein, j'ai envie de te dire.
Ouais.
Et il a de la suite dans les idées. Là arrive Willy Beecham, joué par Ryan Gosling, justement, qui décide de relever ce petit défi, persuadé qu'il va gagner vite fait, bien fait, son affaire et développer finalement sa notoriété. Donc, en réalité, l'affaire n'est pas si évidente puisque Ted Crawford a fait donc disparaître toutes les preuves et finalement, ce film, c'est un petit peu un jeu de manipulation et t'as vraiment cette confrontation entre les deux hommes qui sont prêts à tout pour réussir forcément. Et justement, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié parce qu'il y a vraiment de la tension dans l'air et il y a énormément de retournements de situation et ça, je trouve que c'est pas mal, tu vois. C'est important dans un film qui est... Qui est cet aspect-là, tu vois, qu'ils te prennent au dépourvu. Donc, un très bon film que je te conseille, Lucas, mais bon, après je te connais, tu n'es pas un élève très studieux, c'est-à-dire que quand je te conseille quelque chose, tu me regardes dans les yeux, tu me dis oui, je le regarderai, mais au final tu ne le regardes pas.
Je ne tiens pas mes promesses.
C'est vrai, tu ne tiens pas tes promesses.
Ouais, mais je vais m'affranchir de regarder ce film.
Oui, c'est vrai.
Il faudra me mettre...
C'est une blague que tu adores, j'ai l'impression.
Effectivement, mais il faudra me mettre le couteau sous la gorge pour le faire. Mais bon, voilà, après, ça a l'air toujours... ça a l'air très intéressant.
Bah oui, mais ça l'est, très intéressant.
J'aime bien Ryan Gosling, en plus, c'est un excellent acteur.
Ah oui, c'est un excellent acteur, franchement. Ouais. Et puis justement, c'est un film que... Ben, pour ça, je me suis dit, bon... Pourquoi pas parler de La Faille ? C'est pas un film qui est si connu que ça,
non,
tu vois.
C'est pas très,
il est pas très connu. Pourtant, Anthony Hopkins, Ryan Gosling, enfin, bon, quand même, ouais. Ils sont connus, mais La Faille, pas du tout.
Mais c'est vrai que c'est un peu dans le même rôle. Enfin, un peu dans le même registre, tu sais, un film un peu tiré par les cheveux avec une histoire de meurtre, The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling.
Ouais, sauf en fait, The Nice Guys, c'est quand même sur le ton de la comédie.
Oui, c'est sur le ton de la comédie, ça, c'est sûr. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit un film, tu sais, très connu, voilà.
Non, donc, c'est vrai que The Nice Guys, ouais, c'est pas si renommé que ça.
Mais est-ce que finalement, les gens ne retiendraient pas Ryan Gosling parce qu'il est beau, plutôt que pour son jeu d'acteur ou ses films?
Ben, je sais pas, quand même, il commence à s'affranchir un petit peu de ces caractéristiques-là, j'ai envie de te dire,
ouais,
petit
vrai.
À petit, tu vois.
C'est vrai.
Mais je pense qu'il pourrait devenir un grand acteur avec le temps. Tu vois, par exemple, Brad Pitt, quand il a commencé sa carrière, c'était surtout parce qu'il était beau, dans un premier temps. Et puis après, regarde, aujourd'hui. Brad Pitt, quoi.
Ah, il a bien vieilli.
Il a bien vieilli, quoi. Tu vois, mais il est très bon.
Oui, c'est vrai.
Il est très bon et il sait tout jouer. Il sait jouer le drame, il sait jouer la comédie, il sait à peu près tout faire.
C'est vrai.
Et ça, c'est bien. Et toi, de quoi veux-tu nous parler ?
Alors, moi, Lucas, je vais te parler alors du roman policier. Hein, je veux dire, le roman policier, c'est un genre qui ne m'attire pas vraiment. En principe, mais pour lequel je me suis intéressé à l'occasion de cette émission, et j'en ai aussi ressorti quelques chiffres, puisque je me suis intéressé au site de Lensib. Est-ce que tu connais Lensib ?
Pas du tout.
Bon, c'est normal, parce que moi-même, je ne connaissais pas. C'est l'École nationale supérieure des sciences de l'info et des bibliothèques. Qui en fait est tout simplement un institut qui répertorie des chiffres sur le monde de l'édition, qui fait des questions-réponses pour les étudiants dans le domaine.
D'accord.
Et donc sur ce site, on retrouve des chiffres comme par exemple le chiffre d'affaires que représente le roman noir et le roman policier en France depuis les années 90, qui est en explosion totale depuis la période. Hein.
D'accord.
À chaque fois, on se retrouve avec des chiffres plus élevés chaque année, donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est un sujet très vendeur, même si, bon, des fois, la nomenclature est un peu biaisée, puisqu'on fait rentrer aussi, tu sais, le thriller.
Oui, hein, forcément. Ouais,
donc forcément, quand dedans tu fais rentrer aussi les Stephen King,
c'est ça.
Ça change un peu.
Justement, et puis en plus, voilà. On a tendance un petit peu à confondre ces thèmes-là, quoi.
Ouais.
Ça se rapproche, quoi. Policier, thriller.
Ouais, policier, espionnage, thriller.
Franchement, ça se rapproche. Hein.
Ça se rapproche très, très souvent. Donc, moi, c'est pour ça que je suis vraiment resté dans le policier-policier.
D'accord.
Aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, Lucas, je sais que c'est une chose que tu n'as pas très envie d'entendre, que tu ne veux pas entendre et que personne ne veut entendre, mais s'il y a bien une chose qu'il faut avouer en ce qui concerne le roman policier, c'est comme le rugby, le football, le thé, le pudding et autre chose, c'est que on doit beaucoup à ceux qui sont outre-Manche.
Aux Anglais. Oui, bah
aux
oui.
Aux Anglais.
Mais tu vois, j'ai pas du tout honte. Hein. Par exemple, j'adore le cinéma anglais. Hein.
Ouais.
J'en sais excellent.
Ouais, mais
je les aime juste pas au rugby, c'est tout.
Oui, voilà, oui, mais c'est quand même souvent assez douloureux d'admettre que les Anglais ont de l'avance encore quelque part sur nous.
C'est vrai qu'ils ont de l'avance.
Et c'est la raison pour laquelle, bon, voilà, les Anglais ont beaucoup d'avance, puisque je ne peux pas ne pas citer les pionniers de la littérature policière qui sont Agatha Christie avec Hercule.
Poirot,
évidemment, puisque c'est pas non plus les 12 travaux d'Hercule, Arthur Conan Doyle avec Sherlock, parce que voilà, c'est quand même de noms. Alors j'ai pris que les deux parce que sinon il y en aurait une liste très importante.
C'est sûr,
surtout
ouais,
qu'en plus de
c'est
ça,
plus connu,
le roman policier, c'est très souvent développé avec la presse, mm-hmm. Avec les journaux, etc. Mm.
Les mass médias.
Ouais, les mass médias, évidemment.
Effectivement, hein, oui.
Au 19e siècle et au début du 20e, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, finalement, puisque voilà, c'est une littérature qui s'est beaucoup développée. Voilà, avec Agatha Christie, Hercule Poirot, avec Meurtre sur le Nil,
Meurtre
en Mésopotamie, etc.
Oui, c'est clair.
Enfin, non, plutôt Mort sur le Nil.
Mort sur le Nil,
ouais,
plutôt. Meurtre en Mésopotamie.
Bref, voilà, c'est toujours, on suit ce petit bonhomme belge qui est souvent vanné par ses compères anglais qui disent qu'il est français alors qu'en fait il est belge, un peu comme Stromae, par exemple. Hein, ouais. Les gens ont tendance souvent à oublier qu'il est belge et qu'il tourne ses clips à Bruxelles et non à Paris. Comme certains peuvent le penser. Et la chose, c'est que bon, voilà, ce petit bonhomme, il enquête un peu partout, généralement, il arrive à ses fins, et c'est souvent assez exceptionnel parce que le schéma est toujours pareil.
C'est ce que je voulais te dire.
Il rassemble toujours à la fin, que ce soit du roman ou des épisodes, des séries qui sont adaptées du roman, il rassemble toujours les personnes, par exemple, d'une même famille dans laquelle il y a eu un meurtre, autour d'une table, et il vient dire, les gars, j'ai trouvé le meurtrier.
Ouais, de ouf.
Il est parmi nous.
On dirait une partie de Among Us.
Ouais, c'est Among Us.
C'est Among Us, le truc, t'es.
J'ai vu
tu es l'imposteur.
Colonel Moutarde à Vent. Et les trucs, voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, c'est toujours assez drôle. Et moi, c'est ce qui me fait quand même assez plaisir. Bon, quand je regarde les épisodes de Hercule Poirot, parce que je suis bien obligé parfois de regarder, puisque c'est évidemment une passion de famille, le meurtre chez moi. C'est quand même formidable.
Ça ne m'étonne pas.
Oui, effectivement. Et bon, voilà. Et Arthur Conan Doyle, d'un autre côté, avec Sherlock Holmes, je veux dire, on ne peut pas parler de littérature policière sans parler de...
C'est ça.
De Sherlock, en fait.
Ouais,
c'est pas possible. Parce que c'est quand même un personnage fictif qui a quand même droit à un traitement exceptionnel.
Mm-hmm.
Puisque sais-tu que des lecteurs, encore en 2023, continuent d'envoyer des lettres au 221 bis Baker Street à Londres, ce qui prouve encore qu'ils sont fous, ces Anglais, puisque évidemment, ces gens envoient des lettres un peu comme au Père Noël, en mode « Oh là là, Sherlock, je suis trop fan de toi !»
Excellent.
Et c'est quand même assez particulier, mais bon, c'est quand même...
Bon, franchement, pourquoi pas
Oui, non, mais voilà, et c'est ce qui a finalement dessiné l'archétype.
C'est ça.
Détective privé, de l'enquêteur, avec évidemment le cigare ou la pipe, le manteau, l'air un peu lugubre prise de parole, en mode je pense qu'il y a eu un meurtre.
Un meurtre.
Et que cette personne est décédée de mort. Et voilà. Et le truc, c'est que, c'est toujours un peu comme ça.
C'est ça.
Ce qui a vraiment fondé la base de la littérature policière.
Ouais.
Et voilà. Voilà. Moi, je pense qu'il fallait en parler. Et je conseille forcément à nos lecteurs de lire des classiques de littérature policière. Puisque, comme j'en ai parlé avec Agatha Christie, Arthur Conan Doyle a sorti plusieurs aventures de Sherlock Holmes. Plusieurs nouvelles. Dont, par exemple, le fameux chien des Baskerville. Et donc, c'est comme ça. C'est la base.
Après, je t'avoue que je ne suis pas un connaisseur, tu vois. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, c'est pas vraiment des... C'est pas vraiment... je sais pas, ça m'a jamais vraiment trop attiré, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, j'en ai tellement entendu parler que peut-être que ça m'a un petit... ça m'a pas trop donné envie, finalement, de m'y intéresser.
Ouais, je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. Parce que moi, je me suis arrêté à feuilleter au CDI quand j'étais en primaire, tu sais, les petits livres Sherlock Yak.
Mmh. Je sais pas si tu vois. Voilà, oui, je connais.
C'est en fait Sherlock Holmes, sauf que c'est un yak.
Oui, mais il y avait un dessin animé sur ça.
Effectivement. Et c'est ce qui m'a fait découvrir non seulement Sherlock Holmes, mais aussi le yak. Que je
c'est excellent. Pas en vrai, il est excellent. Ouais, tu vois, je préfère Sherlock Yak que Sherlock Holmes. Limite. Mais oui. Non, c'est vrai, ça. Tu vois, c'est l'enfance, hein, ça, bon. c'est super.
Tu as 5 ans d'âge mental, c'est très bien.
Oui, ben, bah, je l'avoue.
Non, mais c'est bien.
Un problème.
Voilà. Non, ça va, tu veux me battre.
Mais écoute, c'était. As-tu fini? Tu as fini là?
Alors, oui, j'ai fini. Après, est-ce que tu veux que je te parle de la concurrence française qu'il y a?
Bah, bien sûr.
Parce que les Anglais font quelque chose, mais nous, voilà.
Mais
on
nous,
est obligés de répondre.
On suit, bah, bien sûr.
Forcément,
bien sûr,
surtout qu'en plus de ça, les masses médias, il y en a eu en France.
Exactement.
Eh bien, voilà. C'est la raison pour laquelle, on peut parler aussi de Arsène Lupin. Hein, mm-hmm. Est-ce que tu connais Arsène Lupin?
Je connais.
Et non, Arsène Wenger. Effectivement. Puisque Arsène Wenger, c'est le roi des voleurs. Je viens de dire Arsène Wenger, non?
Oui.
Ouais, effectivement. C'est aussi un voleur. Ouais. Mais Arsène Lupin est le roi des voleurs. Et, puisqu'effectivement, en France, a priori, on préfère aduler les voleurs que les enquêteurs.
Mm-hmm.
C'est pourquoi on a attribué le rôle à quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale dans la série Netflix. Je parle évidemment de Omar Sy.
Mm-hmm.
Voilà. Mais l'auteur Maurice Blanc a créé un véritable univers au travers duquel on suit assez bien le cheminement de son personnage qui finalement à la fin de ses aventures finit par passer de l'autre côté et devient lui-même l'enquêteur.
Mm-hmm.
Et en fait ce qui est particulier et ce qui vaut aussi pour les premiers auteurs dont j'ai parlé, c'est que il y a plusieurs dates, plusieurs lieux, plusieurs personnages qui concordent, et en fait ça fait que ça crée tout un univers qui est en fait que les lecteurs à l'époque retrouvaient au travers des numéros qui étaient disponibles avec leurs journaux. Et voilà, en fait ça fait
ouais,
que
ça
depuis,
fait tabac, quoi.
Depuis son apparition en 1905, Arsène Lupin, ça fait un tabac.
Ouais.
Et ça tombe bien parce que lui aussi il aime bien fumer, et lui aussi il a l'accoutrement avec lui, c'est plus le chapeau de forme, élégant, parce que c'est vraiment l'élégance, le vol élégant. Mais voilà, c'est comme ça. Arsène Lupin, c'est la base aussi, mais c'est français.
Et tu trouves que Omar Sy entre bien dans le rôle de Arsène Lupin ou pas?
Alors, je n'ai pas regardé la série. Donc,
moi non plus.
Donc je ne peux pas en juger. Mais,
ah, c'est dommage.
Mais bon, voilà, je pense que je n'en ai pas perdu pour mon argent. Voilà, je pense que voilà.
C'est sur Netflix, donc.
Oui, voilà, si ce soir j'ai envie de le regarder.
Oui, tu peux le regarder,
je le
fais,
mais bon, déjà que je ne regarde pas les films que tu me conseilles.
C'est ça, ouais, je vois pas pourquoi tu regarderas Arsène Lupin avec Omar Sy, quoi.
Ouais, voilà.
C'est triste.
Effectivement.
Et écoute, je pense que tu en as terminé avec les Anglais et les Français.
Effectivement.
Et maintenant, je te propose que, on arrive à, je pense, mi-émission. Ouais. On pourrait mettre une petite musique.
Effectivement.
Mais aujourd'hui, on va innover, on ne va donner ni l'auteur, ni le nom.
Ah oui.
Ça te va?
Moi, ça me va, écoute.
Parfait.
Très bien.
Très bien. Eh bien, on vous laisse avec une chanson.
People say I'm no good, but they never, never do they say why their world is so mixed up, or how it got that way. They all look at me and they frown. Do I really look so strange? If they really dug themselves, I know they'd want to change. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them? Do you expect you to act like them? Look at them, man. Look at the fix they're in. I don't care, I don't care what they say. Just let them sit there and burn. The young might not be so dumb after all, and from the young you might even learn. Everybody says you're no good, 'cause Charles, you don't do like they think you should. Do you expect them to act like you? Do you expect them to expect you to act like them? Do you expect to see? Do you expect a fool to see what a fix he's in? Do you expect a fool to see what a fix he's in? Cardboard houses and your tin can cars. You sit there and you wonder where you are. Those diamond rings, they're all the same. You sit there and you wonder, and you say, who's to blame? Take a look at yourself. Take yourself off the shelf. You can't belong to nobody with your canned cough medicine and your wonder drug. You got more sickness than you got cures of.
Ok. Eh bien, as-tu aimé la musique?
J'ai bien aimé.
T'as bien aimé ?
Ouais, j'ai bien aimé.
On est d'accord par contre qu'il joue vraiment très mal de la guitare, j'ai l'impression. Enfin, en fait, je sais pas, il joue bien, mais on sent que c'est quand même amateur, tu vois.
Oui, on sent que c'est amateur.
On sent que c'est amateur.
Enfin, je pense qu'il joue bien de la guitare, mais je me demande si elle est bien accordée.
C'est ça, en fait, c'est voilà. Ça, ouais, peut-être aussi. Ouais. Je sais pas, il faudrait qu'il y ait des spécialistes de guitare qui nous disent si cet homme-là fait bien de la guitare. Ouais. Joue bien de la guitare.
Il a une belle voix.
Il a une voix suave. C'est pas vrai. Du tout. Elle accroche, tu sais, on sent que qu'il a peut-être fumé un peu trop. Ouais. Mais alors du coup, qui est cet homme ?
Eh bien, je dirais que c'est le futur vainqueur des Victoires de la Musique.
Oui. Et le futur vainqueur des Victoires de la Musique, c'est donc Charles Manson.
Ah, Charles Manson, le fameux.
Mais voilà pourquoi on est parti sur cette musique, hein.
Ouais, mais c'est vrai. Mais
tout simplement parce que c'était Charles Manson.
Mais tu as bien fait de ne pas préciser que c'était lui, parce que je pense que si les gens avaient écouté la musique en sachant que c'était lui, ils auraient dit non, c'est nul, vraiment. On
voilà,
sent
c'est pour
toute
ça.
La patte du meurtrier.
Faut garder, tu sais, un petit peu le suspense. Ouais, voilà. Et techniquement, il a tué personne, hein. Mais oui, c'est-à-dire que c'est le. Ouais, c'est l'homme qui commandait tout le monde, quoi. C'était le gourou de la famille Manson. Mais donc voilà, petite musique de Charles Manson pour être parfaitement dans le thème. Et on recommence tout de suite à vous parler de d'œuvres que l'on a en plus. Tu veux parler de quelque chose, Lucas ? Tu as quelque chose à nous faire partager ?
J'ai bien envie de te laisser commencer, si tu veux, parce que...
D'accord. Voilà. Bah, pas de soucis, let's go. Hein. C'est vrai que oui, effectivement, juste avant la musique, c'était toi qui nous avais parlé de la Grande-Bretagne. Et je reprends. Donc, moi, je vous ai parlé de La Faille. Donc c'était un petit avant-goût finalement, et on va dire que c'était l'entrée. Maintenant il faut passer au plat de résistance, et qui de mieux pour régaler le spectateur qu'un certain David, et non Lucas, je te sens arriver, ce n'est pas David Bowie, mais je parle même pas de David Cronenberg, qui a fait bien évidemment La Mouche, qu'il faut que tu regardes aussi, mais un autre réalisateur sacrément barré aussi, c'est David Fincher.
Ouais, David Fincher, le fameux.
Et bien, David Fincher, c'est le seul, hein, c'est l'unique, l'obsessionnel du mal, le king du crime. Et ça tombe toujours bien de parler de David Fincher, surtout pour moi, puisque c'est peut-être, je pense, mon réalisateur préféré. Et je sais que... je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, et je ne sais pas si tu l'es aussi, mais David Fincher a été présent à la cérémonie des Césars.
Ah bon ?
Oui, il était présent à la cérémonie des Césars.
Non, moi je regarde plus les Césars. Moi,
ouais, ben en fait moi non plus. Je regarde pas les Césars, mais on va dire que je regarde les meilleurs moments.
Ah oui.
Et je regarde les meilleurs moments et justement David Fincher était présent à la cérémonie et il a reçu bien évidemment un César d'honneur, sinon il ne serait pas venu, pour son immense carrière. Et je t'avoue que j'ai pris énormément de plaisir de voir ce réalisateur de talent recevoir cette récompense. En plus, Brad Pitt a fait une petite surprise à David avec un discours très drôle, hein, à l'image de Brad Pitt, bien évidemment, mais aussi émouvant. C'est en quelque sorte le meilleur moment de la soirée, hein, excepté le moment où une activiste est entrée sur scène. Hein,
Ah oui, ouais, ça j'ai vu.
En fait, je pense que c'est surtout ça qu'on a retenu. C'est terrible, hein, mais c'est surtout ça qu'on a retenu de la cérémonie des Césars.
Ouais, parce que ça n'intéresse personne, de toute façon, les Césars, j'ai l'impression.
Comme quoi, c'est une cérémonie française, j'ai l'impression que personne n'en a rien à cirer. Mais, on va pas parler pour les autres. Donc, si vous n'êtes pas convaincu qu'il soit le spécialiste du crime, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. On a bien sûr Seven, on a Zodiac, Gone Girl et la série Mindhunter. Je sais, Lucas, que tu as vu la série Mindhunter. Ça, j'en suis sûr, hein, tu me l'as dit.
Oui.
Et je sais que tu l'aimes particulièrement.
Oui, tout particulièrement. Surtout pour le personnage principal qui est vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est
ouais, ouais, du coup, je sais pas de qui tu parles, parce que en soi, des personnages principaux, il y en a pas mal.
Oui, c'est vrai, mais comment il s'appelle dans la série
Ed Kemper.
Je crois que c'est... attends, Holden Ford.
Holden Ford, il est excellent. Hein.
Parce qu'en fait, c'est un faux nom, mais... Oui, ouais.
Ouais, il est excellent. C'est vrai que cette série est très bien, mais le problème, c'est que y aura pas de saison 3. Et ça m'attriste un petit peu, mais bon. Écoute, c'est comme ça. David Fincher reviendra... Pour d'autres aventures. Et donc voilà, je me suis dit, je vais pas parler de Seven parce que j'en avais déjà trop parlé. Je vais plutôt m'attaquer à Zodiac car je trouve qu'il est quand même assez intéressant d'aborder ce film qui est véritablement intrigant puisque c'est un cold case. Donc on n'a jamais retrouvé le vrai Zodiac. On suspecte beaucoup de monde, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Et le Zodiac, l'histoire du vrai tueur, il sévissait en Californie entre 1966 et 1978. Et même si le tueur agissait toujours à visage découvert, quoique, puisqu'il portait quand même une cagoule carrée, et qu'il y a de nombreux portraits robots qui ont pu être reproduits justement de son visage, à aucun moment la police n'a pu découvrir qui était le vrai tueur du Zodiac. Et c'est quand même assez incroyable parce que ça fait des années, ça fera quasiment 50 ans que on recherche le Zodiac, qu'on essaye de savoir qui il est, mais peut-être que c'est déjà perdu d'avance, je ne sais pas. Donc il est le pire, en fait, c'est que il est quand même accusé d'avoir commis entre 37 et 200 meurtres. C'est quand même une grosse marge.
Ouais, il y a une grosse marge.
C'est ce que je me disais. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas vraiment de mode opératoire particulier. C'était plus les couteaux, les armes à feu. Bon, voilà. Ça ressemble à beaucoup de crimes également. Donc, on peut pas trop savoir qui il est en réalité. On peut pas trop savoir qui a réalisé tel ou tel crime. Surtout qu'il ne laissait pas de marque totale, de marque genre le signe du zodiaque, tu vois, sur les corps ou j'en sais rien. Il est resté quand même dans un rayon, enfin, les enquêteurs pensent, de 200 km autour de San Francisco, et il a ridiculisé les forces de l'ordre avec les messages qu'il envoyait, notamment à la presse, des messages codés mêlant symboles grecs, code morse, caractères alphabétiques, signes astrologiques et signaux sémaphoriques. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que je vais parler de Zodiac, donc de David Fincher, et ce qui est incroyable, c'est que David, justement, a grandi en Californie lorsque le tueur du Zodiac se baladait dans les rues. Et j'ai envie de te dire, il est quand même assez bien placé pour réaliser ce film, du coup, parce qu'il a... Il était là, quoi, tu vois, il était présent. Et il raconte, justement, il dit, hein, je cite, « Dans mon quartier, les gosses de mon âge en avaient une peur bleue. Allaient-ils se pointer au bout de la rue, se glisser dans la cour de notre école, monter dans notre bus? Chacun redoutait le Zodiac. » Ça en jette, quand même.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
En fait, c'est horrible, mais ça en jette.
Ah oui.
Et les Américains, je vais pas dire qu'ils sont fans du Zodiac parce que ça serait horrible de dire ça, mais il y a quand même, de toute façon, il y a une certaine, j'ai limite l'impression qu'il y a une fan zone autour du milieu des psychopathes, tu vois.
C'est vrai.
Tu vois, et on s'intéresse énormément à la psychologie des psychopathes, j'ai envie de te dire, ouais. et particulièrement le Zodiac, justement, puisqu'il y a de nombreuses enquêtes qui ont été faites, et encore aujourd'hui. En fin de compte, il n'a jamais été retrouvé. On pense même qu'il est sûrement mort de vieillesse, hein, parce que ça fait quand même un moment. Et déjà dans Zodiac, David, il nous présentait un homme, un certain Robert Gray Smith, qui a véritablement existé, celui-ci, et qui joue ici dans Zodiac, et qui est joué par Jay Gyllenhaal.
Hein, ouais, le fameux.
Le fameux. Et qui est, comme à son habitude, excellent. Hein, ça, on ne change pas cet homme-là. Et ce fameux Robert Gray Smith, c'est un dessinateur qui se lance dans le déchiffrage de l'énigme du Zodiac, car il est fan de casse-tête. Et on va dire que celui-ci est particulièrement difficile, quand même, le Zodiac. Les cryptogrammes.
Bon, oui, je vais paraître très... comment dire, très rabat-joie. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde, même à partir du moment où il a envoyé ses codes, mm-hmm. qui ont dû se dire, et c'est mon parti à moi, c'est... mais en fait, ça se trouve, il n'y a pas de sens à avoir. Enfin, ça se trouve, ça n'a pas de sens.
De quoi les...
Ouais, le code.
Le code.
En fait, ça se trouve, c'est juste, voilà, salut. Je vous mets des trucs.
Justement, mais c'est pour ça qu'on va voir.
Mmh, mmh. Intéressant ça.
Et oui, mais je vois ce que tu veux dire, parce que même il y en avait plusieurs qui pensaient qu'il avait des problèmes de dyslexie, le Zodiac.
Ah, c'est possible.
Justement, mais bon, après c'est peut-être parce que le problème c'est que ces codes sont hyper complexes et ils se basent sur plein de trucs que en général nous on connaît pas du tout. Vraiment, ouais. C'est compliqué de savoir ça. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui cherchent. Donc, c'est vraiment un véritable casse-tête. Et justement, ce Robert Gray Smith, dans le film, et dans la vraie vie, il est accompagné dans son enquête par Paul Avery, qui est joué par Robert Downey Jr., spécialiste des affaires criminelles au journal. Et Zodiac, il nous laisse bien évidemment au cœur de ce mystère en énonçant un principal suspect et en laissant sous-entendre qu'il était le tueur. C'est un certain Arthur Leigh Allen. Mais en réalité, il se trouve qu'un inspecteur, Kelly Carroll, a repris l'enquête avec son équipe en 2000 et a fait savoir que des preuves complémentaires récemment découvertes pouvaient révéler le profil génétique complet du véritable tueur. Une comparaison effectuée en 2002 de l'ADN prélevé sur des enveloppes envoyées par le tueur semble innocenter le principal suspect, donc ce Arthur Allen, parce qu'en fait la comparaison ne permettait pas de conclure que l'ADN prélevé était celui du tueur. Donc là, tu te dis, Arthur Allen, c'est fort probable que ça soit pas du tout lui, quoi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je te parlais de tous ces enquêteurs, mais qu'il y a un groupe d'enquêteurs, une quarantaine de détectives américains indépendants qui travaillent justement sur le sujet et qui pensent justement avoir trouvé la véritable identité du tueur du Zodiac. Et pour ces enquêteurs, il s'agissait d'un ancien soldat américain qui est justement décédé en 2018, un certain Gary Francis Post. Alors tu vas me dire, Lucas, quel est le portrait de cet homme mystérieux et pourquoi serait-il le tueur ? Eh bien, ces enquêteurs en sont arrivés à une conclusion basée sur de nouvelles preuves médico-légales. Et il y a justement quelques détails qui pourraient expliquer que cet homme-là serait le Zodiac. Alors, on a premièrement qu'une de ses voisines le dépeint comme un maniaque du contrôle et abusif envers sa femme. Bon, c'est quand même assez basique comme données, mais on sent que le type, psychologiquement...
Aucun commentaire.
Voilà, c'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est pas...
On en connaît tous, c'était comme ça.
Et deuxièmement, Hans Smith, ancien pilote durant la guerre du Vietnam, nous rapporte que Gary était à la tête d'un groupe criminel donc durant la guerre du Vietnam. Donc voilà, on peut se dire, on a eu beaucoup de films aussi qui justement retracent la psychologie des hommes qui reviennent de la guerre du Vietnam et ils deviennent complètement fous. Donc techniquement, ça pourrait être l'un des détails qui pourrait nous interpeller. Et troisièmement, les enquêteurs de Casebreakers, donc c'est ces 40 détectives pensent aussi avoir identifié un autre meurtre commis par le tueur du Zodiac. En 1966, une certaine Cherry Jo Bates, qui est retrouvée morte à Riverdale, avec 46 coups de couteau et presque décapité. C'est horrible. Hein.
Les
autorités l'ont un temps associé au nombre de victimes, mais aucune preuve n'est venue conforter la thèse. Selon Casebreaker, une empreinte de botte retrouvée sur la scène du crime est similaire aux empreintes isolées autour des autres victimes. Donc voilà, on est à peu près là. Et de plus, il y a une montre bracelet qui a été retrouvée sur le lieu de l'homicide, appartenant sûrement au tueur, et elle aurait été maculée de peinture. Justement, il se trouve que ce Gary était justement artisan peintre pendant plus de 40 ans.
Quel hasard.
Mais le problème, c'est qu'il y avait de nombreux suspects.
Ouais.
Il y avait de nombreux suspects. Et j'ai envie de te dire, est-ce que le Zodiac, malin qu'il est, hein, parce que le type réalise des cryptogrammes ultra complexes, je pense que quand même, il sait réfléchir, et il est assez doué dans ce qu'il fait. C'est tout à fait probable que justement, il ait mis de la peinture sur une montre pour inculper
Voilà.
Ça peut être tout à fait ça aussi, tu vois. Et on n'est même pas sûr du meurtre de cette fameuse Cherry, là. Donc bon, en soi, on ne sait pas trop. Et enfin, dernièrement, le 17 février 2021, un certain Faisal Zirawi, un polytechnicien franco-marocain, a annoncé qu'il avait décrypté les deux derniers messages du tueur, dont l'un d'entre eux comporte la mention « My name is », suivi d'un code, et il a donc publié un livre sur l'affaire. Voilà, hein, tout pour l'argent. Bon, il est malin, hein, franchement.
Oui, plus les polytechniciens. Donc,
ouais, il sait que ça marche, quoi.
Ça va, ouais.
Et au cours de ses recherches, de son décryptage, il a trouvé un nom, un certain Lawrence Kay, avec un R à la place du E à Kay, tu vois.
Ok.
Un nom qui se rapproche justement du nom de Lawrence Kay, justement avec un E. Ouais. Et dans l'un des cryptogrammes, Faisal Zirawi, ben, pour le coup, découvre que le tueur du Zodiac, il projetait aussi de faire sauter une école proche du lac Tao. Donc, quand même, il arrive à découvrir certaines choses. Il arrive à trouver un nom, Lawrence Kay, et le truc, c'est que ben, ce Lawrence Kay a vraiment existé, et il a justement été suspecté dans les années 60.
Très bien, très
donc, c'est
bien.
Là que ça s'éclaire un petit peu, parce que l'affaire est quand même assez compliquée à aborder. Et justement, ce Faisal Zirawi, il a quand même trouvé pas mal de choses, quoi.
Ouais.
Ce ne sont pas toutes les preuves que la police a reçues. Ils ont également reçu des informations d'une certaine Pam Huckabee, la sœur de la victime du Zodiac, d'une des victimes du Zodiac, d'une certaine Darlene Ferrin. Et justement, cette Huckabee a affirmé que Kay avait suivi Ferrin des mois avant le meurtre. Donc, on se dit peut-être que Lawrence Kay pourrait être le fameux Zodiac. Et il y a aussi une des autres victimes du Zodiac qui a vu ce fameux Lawrence Kay et qui pensait que c'était justement le Zodiac et qui l'a reconnu. Parce que cette personne, cette victime du Zodiac qui n'était pas morte, a vu le visage du Zodiac.
Mais du coup, y aura-t-il un Zodiac 2 de David Fincher Oui, alors on va suivre les aventures de Lawrence Kay.
Peut-être une reprise,
oui.
Mais je sais pas.
Ok.
Donc on a Arthur Allen, on a ce fameux Gary Post et Gary. on a ce fameux Lawrence Kay.
Ouais.
Mais le problème, c'est que y a des éléments forcément qui collent pas. Par exemple, Kay mesurait 1m80, mais il ne pesait pas plus de 75 kilos. Et en 1969, il avait déjà 45 ans, donc il peut pas être il peut pas être lié vraiment aux caractéristiques du tueur en règle générale, puisque selon les dires des victimes, le Zodiac était un jeune homme environ de la trentaine. Il est entre 25 et 35 ans, brun, les cheveux courts, de corpulence robuste, voire massif et un peu bedonnant. Et donc il avait des lunettes à monture épaisse. Donc voilà, on est un petit peu sur ses caractéristiques, sur ce profil-là. Et ça colle pas forcément avec ce Lawrence Kay. C'est pour ça que, au final, on peut pas savoir qui est véritablement le tueur, parce que y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites, et des hypothèses parfois brillantes, mais on peut pas en arriver à une véritable conclusion.
Bah, ça montre pour le coup que là, on atteint peut-être un peu le crime parfait.
Voilà.
Là.
C'est
là,
ça.
Là,
c'est
pour
ça
le coup,
que...
parce qu'on est au courant qu'il y a un crime.
C'est ça.
Mais là, pour le coup, alors vraiment, on a aucune idée de qui peut être le criminel. C'est un peu comme le petit Grégory, finalement.
On ne peut pas savoir.
Mais vraiment, oui, c'est qu'on n'a vraiment aucune idée de.
On n'a aucune idée.
Ça, c'est dingue. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi que, bah, justement, tu vois, dans le film Zodiac de David Fincher, j'imagine que ce qu'il fait, c'est de se pencher sur la. Comment dire, sur la psychologie du tueur. Et ça, c'est quand même assez pas mal parce que c'est quelque chose. Bon, alors. Moi je prends l'exemple de la littérature, il y a toujours eu, tu sais, un peu ce suivi des progrès de la criminologie, et justement ce que fait David Fincher, bah, c'est aussi le cas avec Mindhunter, hein, parce que c'est tout le sujet du truc, c'est que ça suit quand même le fait que après, bon, on va dire la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y avait un intérêt pour la psychologie des tueurs.
C'est ça.
Et ça, c'est super intéressant, je trouve.
Et oui, c'est hyper intéressant. Mais
c'est très intéressant.
Voilà, et c'est ça. C'est David Fincher, c'est un petit peu l'expert dans ce milieu lorsqu'il le traite au cinéma, quoi.
Ouais.
Mais voilà, le Zodiac, on saura sûrement jamais qui il est véritablement. Mais d'un côté, c'est incroyable, mais c'est quand même dommage parce qu'on ne pourra jamais vraiment savoir la psychologie qu'il avait. On se doute que c'était un maniaque, ça paraît plutôt logique, hein. Mais on ne peut pas trop savoir ce qu'il a vécu souvent dans son enfance, dans leur enfance. Ben, les psychopathes, justement, c'est là que se construit un petit peu le profil. Mais là, on ne pourra jamais savoir.
Ouais.
Sûrement jamais.
C'est vrai.
Parce que même avec les progrès de la génétique, de l'ADN, des études de l'ADN, on n'arrive pas. Donc,
ouais.
Voilà.
C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué.
Et pour faire suite à ça, tu vas nous parler de quoi ?
Bah alors, bon, pour parler juste très rapidement, mais vraiment très rapidement, de la psychologie dans le crime. Bon, si j'avais un chef-d'œuvre à recommander à ce sujet, bon, bah, c'est Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski, parce qu'il faut bien que je fasse une émission, enfin il faut bien que je le cite dans l'émission à un moment donné, mais qui est très intéressant parce que ça pose la question de la morale, des balbutiements de la psychologie dans le crime, etc. Donc comment justifier le crime par un étudiant d'une vieille usurière qui n'avait pas beaucoup d'utilité pour la société russe de l'époque.
Ouais.
Et bon, je trouve que c'est très intéressant. Mais bon, voilà, parenthèse close sur la psychologie dans la littérature. Parce que bah, moi, je terminerai un peu, je veux dire, mon point de vue avec la littérature policière sur le fait que le nombre de prix accordés est en rapport avec le roman policier depuis justement la deuxième moitié du XXe siècle a explosé. Vous avez, on a des prix de romans policiers de partout.
Ouais.
Ça a créé même des festivals du roman policier.
Ouais.
Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un genre qui vraiment attire énormément aujourd'hui. Et même beaucoup de personnalités en dehors du milieu littéraire. Je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour la littérature au départ, mais qui s'intéressent au travers du crime.
Au travers du crime, ouais.
Et c'est le cas, bah, par exemple, de la célèbre Fred Vargas, qui, alors, bon, ce n'est pas son vrai nom, hein, mais qui était au départ une archéozoologue de formation.
D'accord.
Voilà, donc ce qui fait que ça rend tout de même ces ouvrages assez intéressants, je trouve. Voilà, moi, pour en avoir lu quelques-uns, c'est assez sympathique.
D'accord.
Et en ce qui concerne, par exemple, parce que c'est aussi quelque chose de particulier du roman policier, pour ceux qui sont rentrés dans une librairie un jour dans leur vie, ont peut-être constaté qu'il y avait aussi un rayon consacré au polar, au polar local. Et c'est pourquoi ici, dans la région, nous avons le local de l'étape qui est Philippe Lescaret, qui, quant à lui, a fait des études de physique, voilà, ce qui n'a vraiment pas beaucoup de rapport avec la littérature, mais peut-être un peu plus de rapport avec le crime, ce qui rend la chose peut-être un peu plus intéressante. Voilà, et puis, ce qui est intéressant tout de même avec ça, c'est que la plume est très contemporaine le plus souvent dans ses livres, quel que soit l'auteur, donc ce qui rend la forme limpide et concise, et c'est le plus souvent possible de les lire vraiment en un soir. C'est vraiment des livres généralement qui se lisent assez rapidement, et bon, en ce qui me concerne, Je me sens pas vraiment, pour le coup, légitime de conseiller une quelconque lecture à nos auditeurs, parce que ouais, c'est vrai que c'est...
En soi, il y en a beaucoup en plus.
Il y en a énormément, donc c'est pour ça aussi, juste faire très attention et essayer de trouver vraiment des auteurs références, comme je c'est disais, ça. Fred Vargas et peut-être ouais. un peu Philippe Lescarré pour ceux qui veulent s'intéresser à la littérature locale, mm-hmm. parce que le problème, c'est un peu comme la fantasy, puis même n'importe quel autre type de littérature, c'est que quand ça a un succès à un moment donné et que l'offre se multiplie, généralement l'offre n'est pas toujours excellente
qualité, ouais.
et parfois elle peut s'avérer très médiocre, donc c'est bon, ça.
Donc faut,
c'est
pour vaut mieux trouver des ouais clairement des auteurs de référence quoi.
Ah, oui,
mais
oui.
Franchement ça il y en a pas mal.
Oui, il y en a pas mal.
Il y en a donc, pas mal, donc il voilà, y a de quoi faire quoi.
C'est comme les films sur le meurtre, le
ouais,
crime,
clairement.
Tout ça. Bon, il y en a qui sont pas
énormément.
Qui sont pas excellents.
Non, c'est ça.
Mais comme quoi,
y a de tout.
Le meurtre, ça passionne.
Le meurtre ça passionne,
et
oui,
c'est
clairement.
Formidable. Ah ouais.
Et ça passionne à tous les types de bah du coup de d'œuvres hein, parce que bon t'as...
Ouais.
Enfin je veux dire même quelqu'un qui n'est pas qui aime pas trop le cinéma elle va regarder un film un soir comme ça et, c'est vrai que elle voit film policier film enquête meurtre etc bah ça attire
ouais.
Bah tu regardes t'allumes la télé maintenant t'as que les experts ce genre d'enquête donc
c'est
bon c'est ça revient toujours autour du crime quoi
ouais.
Et donc tu en as terminé.
Je conclurai juste avec une petite chose, justement, puisque je parlais de festival local.
Ah, sur, festival local.
De festival sur le roman policier. Et bon, évidemment, on va rester dans le local. Hein. Je tiens quand même à préciser que pour ceux que ça intéresse, au mois d'octobre, à chaque fois, fin septembre, début octobre, chaque année, à Pau, il y a le festival Aller-retour dans le noir, qui est consacré au polar et qui fait intervenir le plus souvent les meilleures plumes. Du polar, que ce soit des plumes espagnoles, françaises, lusophones, scandinaves, etc. Ben, bref, ça vient d'un peu partout et c'est, je crois, c'est, la dernière édition d'octobre 2022 était la 14e, donc cette année on fêtera les 15 ans du festival.
Ah ouais
et je okay. pense que pour ceux que ça intéresse, bon voilà, allez faire
chouette,
un tour.
Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça.
Il faut aller faire un tour et surtout que ça me fait plaisir d'en parler étant donné que j'ai pu participer. Un peu au truc.
Il a une petite anecdote.
Au lycée, voilà, oui,
ouais.
petite anecdote. Voilà.
Et du coup, t'as fait quoi ? T'as fait une nouvelle
Voilà, au lycée,
ouais.
on nous a encouragé à. Enfin, on nous a même forcé à écrire une nouvelle
ouais.
dans le cadre d'une matière pour l'envoyer au jury pour ensuite élire la meilleure plume polar lycéenne de Pau.
Et tu étais la meilleure plume ?
Et je n'étais pas du tout la meilleure.
Oh, dommage.
Je me suis vraiment contenté de faire le strict minimum parce que je dois vraiment être très honnête mais alors le roman policier c'est vraiment pas ma tasse de thé.
D'accord.
Mais voilà je me suis contenté d'écrire un truc très bidon sur le pot du 19e-20e siècle enfin voilà.
Bon pas... tu t'es amusé quand même. Non.
Non,
même pas.
Je t'avoue que écrire okay, sous le coup de la pression, enfin,
ouais, je comprends.
Il faut le rendre demain parce que sinon en fait on te met un zéro.
Ah ouais d'accord.
Ouais, voilà,
okay.
C'est pas
ouais,
fou.
Donc
mais
c'est pas ouf.
C'est une expérience voilà.
C'est une expérience, tout est bon à prendre, j'ai envie de te dire.
Oui, tout est bon à prendre, voilà.
Eh bien, super. Pour conclure cette émission, j'ai envie de vous dire, toutes les œuvres que l'on vous a conseillées, que l'on a abordées, je vous invite à les regarder, les lire, je sais pas, Netflix... ou bien
ouais, voilà.
l'espace culturel, tout simplement.
Culturel, voilà.
Et puis voilà, le crime, c'est bien.
Ouais.
Mais de loin.
De loin.
De loin. De très loin.
De très loin. Bon.
Je te laisse conclure, Lucas.
Eh bien, pour terminer, je pense qu'on peut dire à nos très chers auditeurs eh bien, une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger l'application Radio Campus sur Android et iOS.
Effectivement, il ne faut pas oublier le lien Radio Campus, donc sur Internet, bien
et
évidemment,
voilà,
le
ça.
Site, et puis voilà, on vous et souhaite voilà. une très bonne...
Très bonne journée.
Une très bonne nuit.
Une très bonne nuit.
Une très bonne nuit, on
ne
sait jamais.
Dormez bien, mais attention, il y a peut-être quelqu'un derrière votre fenêtre.
Exactement.